Voici le deuxième épisode de ma série consacrée à l'année 1963. Au menu, Jean 23 est mort. Vive Paul VI. La bande des yéyés met le feu à la capitale. Delon et Belmondo s'échauffent avec les Condés. Et Aznavour envoûte les Américains.
1963, on de la raconte sur Europe 1.
En mai 1963, le pape Jean XXIII est au plus mal. Il a 81 ans et il est atteint d'un cancer de l'estomac et de la prostate.
Ce matin, Jean XXIII n'a pas dit sa messe et il a renoncé à paraître à la fenêtre de ses appartements privés pour bénir la foule comme il aime à le faire pourtant. 10 000 hommes et femmes l'ont attendu en vain. Ils ont attendu le pontife, dont les traits marquaient déjà depuis la fête des rameaux et même bien avant, une lourde fatigue. Lui dont le visage avait naguère été si plein et souriant. Le pape ne quitte plus guère sa chambre, dont ne s'éloigne pas le docteur Mazzoni, son médecin traitant, et où l'a examiné la nuit dernière un éminent chirurgien, le professeur Valdoni.
Et le 28 mai, lundi de Pentecôte, le pape est victime d'une hémorragie interne et d'une péritonite. Et 6 jours plus tard, le 3 juin 1963, Radio Vatican annonce sa mort.
Ici Radio Vatican en langue française. Avec douleur, nous vous annonçons que le Saint-Père Jean XXIII vient de mourir après avoir reçu les sacrements de l'Église, le Saint Viatique et l'onction des malades. Le pape de la bonté et de la paix, calmement, vient de rendre son âme à Dieu dans ses appartements du Vatican à 19h49, assisté de ses collaborateurs les plus intimes, de ses parents et de ses médecins.
Angelo Roncalli, devenu pape sous le nom de Jean XXIII, meurt 4 ans et demi seulement après le début de son pontificat. Dans les rues de Paris, croyants comme non-croyants semblent émus de le voir disparaître.
Je pense qu'il avait fait beaucoup de bien, par exemple avec son concile œcuménique, pour rapprocher les religions les unes des autres. Et puis alors, je pense que pour la paix du monde, et puis alors, je regrette vraiment qu'il soit mort.
Moi, c'était le maître du monde, et puis ensuite, malgré tout, c'était notre chef. À tous, et je trouve quand même que la France maintenant, le monde entier est en deuil. Moi, pour moi, c'était un grand homme.
Malgré que je ne suis pas croyant, mais j'estime que c'était un homme qui voulait la paix, qui voulait enfin le bien-être de l'humanité, et c'est regrettable qu'il ait disparu comme ça.
Je suis américaine, mais je voulais dire que je ne suis pas de la même foi du pape, mais je l'admire tellement parce qu'il était pour la paix. Et il est pour toutes les personnes du monde. Ça, c'est une très bonne chose.
Pour nous, ça représentait quelque chose de très, très bien. C'était un homme merveilleux, un homme très gentil pour les pauvres, pour tout le monde. Et on le regrettera toute notre vie.
Pour moi, c'est assez délicat à dire. Mais enfin, je trouve que c'est un des meilleurs papes qu'on a eu jusqu'à maintenant.
Le plus grand des hommes, un être d'une volonté supérieure.
Dans les heures qui suivent l'annonce de la mort du pape, Rome est prise d'assaut. 200 à 300 000 personnes convergent vers le Vatican.
La foule est telle que le recueillement relatif de ce matin s'est évanoui cet après-midi dans la presse et la bousculade. Cette attente pour l'hommage au pape défunt s'est transformée souvent en une kermesse débonnaire, d'où part sans arrêt des cris de vendeurs de cartes postales, de timbres, de souvenirs, de boissons gazeuses et de médailles ou de photos.
Autour de la place Saint-Pierre, derrière les colonnades, il y a aussi des magasins d'objets de piété.
Le petit magasin est toujours plein de gens. On ne peut même pas les servir tout.
Est-ce que les prix ont augmenté?
Non, nous non. Notre magasin, non. Mais les autres, malheureusement, peut-être.
Beaucoup?
Non, pas beaucoup. Ils ne profitent pas trop.
Mais ce sont des gens qui ne vendent pas tous les jours, là?
Non, sont des... ils n'ont pas le droit de vendre.
Pourquoi vendent-ils aujourd'hui?
Parce que je veux faire un peu d'argent. Il y a un peu de misère en Italie. C'est une bonne affaire pour ces pauvres gens-là.
2 semaines après le décès de Jean XXIII, le 21 juin 1963, un conclave désigne son successeur, le cardinal Giovanni Montini, 262e pape.
Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
Nous vous annonçons une grande joie, nous avons un pape.
Et reverentissimum dominum. Dominum Johannem Baptistam.
Jean-Baptiste, c'est le cardinal Montigny. La foule crie Montigny, vous l'entendez? Jean-Baptiste, Johannem Baptistam, c'est Jean-Baptiste. Il n'y en a pas beaucoup, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean-Baptiste.
Sante Romane Ecclesie, cardinale Montigny.
Un pape de 65 ans qui choisit de se faire appeler Paul VI.
Eh bien voilà, nous venons d'arriver juste à Rome et nous descendons du car et nous sommes précipités parce que nous étions enchantés, nous verrions tout le monde courir et nous disions sûrement le pape est nommé. Nous sommes très très contents que ce soit le pape Montigny.
Midi 17, le pape Paul VI va apparaître pour la première fois au balcon de la basilique Saint-Pierre.
Et quand Paul VI célèbre sa première messe en tant que pape, Europe numéro 1 est là, bien sûr. Et la station a même le droit à une mention spéciale de la part du souverain pontife.
Parmi nous, il y a cette nuit les représentants de Radio Europe venus exprès de Paris pour retransmettre à la France et à l'Europe tout entière cette messe ambrosienne avec nos prières et nos chants religieux. Nous voulons leur dire combien nous apprécions ce geste d'amitié.
Le nouveau pape, Paul VI, est considéré comme un moderniste. Il y en a même qui disent qu'il est de gauche. Ce qui fait réagir le poète et journaliste français, Louis Aragon.
Il semble que ce soit un homme qui doive suivre la voie ouverte par Jean XXIII. Dans ce cas-là, je ne pense pas qu'un seul cœur d'homme et de femme puisse faire autre chose que se réjouir de cette élection, mais je ne me crois aucun droit de prévoir, prédire quoi que ce soit à ce sujet. Pour ce qui est de l'existence de pape de gauche, c'est une expression pour moi un peu curieuse. Il m'importe surtout que Paul VI soit un pape de paix.
Et la proclamation de Paul VI le 30 juin 1963 se déroule pour la première fois à l'extérieur de la basilique Saint-Pierre, jugée trop petite. Vous avez reconnu les Beatles, je suppose, en 1963, avec « I want to hold your hand », chanson écrite par Lennon et McCartney.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Le 22 juin 1963, Europe numéro 1 organise un grand concert gratuit, Place de la Nation, à Paris, pour fêter le départ du Tour de France. Et aussi pour célébrer le premier anniversaire du magazine créé par Europe numéro 1, Salut les copains, déclinaison de l'émission de radio du même nom. Les organisateurs attendent entre 15 000 et 20 000 spectateurs. À 19h, objectif atteint. 20 000 jeunes sont rassemblés devant le podium.
Comme chaque soir pendant la durée du Tour de France, nous allons passer la soirée ensemble pour écouter les vedettes de la chanson. Ces soirées, nous les devons à une grande marque que vous connaissez et que nous aimons. Ces soirées, nous les devons à l'huile Le Sieur. L'huile Le Sieur ne se contente pas de nous offrir un produit de toute première qualité. Vous le savez, comme moi, quand on pense bonne huile, on pense Le Sieur. Mais elle cherche en plus à nous rendre service et à nous faire plaisir. Tout cela n'est pas si courant, c'est pourquoi nous pouvons tous dire ensemble un grand merci à Le Sieur. Ce soir, donc, nous sommes place de la Nation à Paris où se trouve le magnifique podium d'Europe numéro 1 qui va faire le Tour de France. Beaucoup de jeunes vedettes de la chanson sont venues, nous avons déjà applaudi les dragons et en ce moment, nous assistons au tour de chant des chats sauvages.
Si nous sommes tes copains, dis-nous ce qui se passe. Les filles, c'est bien gentil, mais tu es un apprenti. T'as devant toi toute la vie pour ce genre de drame.
Le bouche à oreille a si bien fonctionné que très vite, c'est une marée humaine de 100 000 personnes qui déferle sur la place de la Nation.
Déjà, il y en a partout, sur les arbres, sur les toits des maisons, perchés sur les corniches des immeubles. Sur le moindre banc, il y a 10, 20 personnes qui se hissent sur la pointe des pieds.
Monsieur, vous êtes concierge de l'immeuble. Ce bruit, ça vous en est beaucoup ce soir?
Non, ça ne m'amuse pas. C'est des jeunes qui s'amusent.
Qu'est-ce que vous pensez du twist?
Moi, je suis vieux, j'ai 66 ans. Bah, c'est la musique des jeunes. Dans mon temps, c'était la java, c'était la polka, c'était la valse, c'est tout ça.
Moi, de mon temps, c'était le charleston. Et j'ai été champion de charleston, monsieur. J'ai 52 vers, je ferai une démonstration. Sur l'estrade, je danse peut-être mieux que Johnny Holiday.
Devant cette foule inattendue, le préfet de police de Paris, Maurice Papon, envoie 2000 agents supplémentaires pour sécuriser le concert.
Vous habitez là, sur le cours de la Seine?
Oui.
Vous êtes descendu pourquoi?
Pas parce que ça m'empêche de dormir, c'est pour me rendre compte de ce qui se passe dans mon quartier.
Dans la foule, il y a surtout des jeunes gens de 18 à 20 ans, mais il y a également des personnes d'un certain âge, et il y a aussi de tout jeunes enfants. Quel âge avez-vous?
11 ans.
Bon, qui est-ce qui a décidé de venir ici à la fête ce soir? C'est vous ou vos parents?
Nous.
Bon, vous êtes venus pour qui?
Je préfère Johnny Hallyday.
Pourquoi?
Parce qu'il a plus de rythme que Richard Anthony.
Quel âge avez-vous?
13 ans.
Vous aimez ce qui remue, ce qui bouge?
Oui, voilà, j'aime l'ambiance.
Tout ce monde pousse sur les barrières que les agents contiennent à grand peine, mais avec le sourire, tout en donnant d'ailleurs leur avis sur le touriste.
C'est sympathique.
Malgré la bousculade? Vous avez le travail supplémentaire?
Mais parfaitement, mais oui. C'est distrayant.
Le twist, ben c'est pas mal pour les jeunes, bien sûr, seulement ça les exalte un peu trop, quoi.
Et pourquoi sont-ils là, ces centaines de milliers de Français qui se pressent place de la Nation? Eh bien, pour voir des vedettes, pardi.
Vous étiez venu spécialement pour Johnny Hallyday?
Non, du tout. Je l'applaudis, mais mon idole maintenant, c'est Claude François, franchement. Et vous savez, maintenant, j'ai plus de 20 ans, moi alors.
Et vous êtes venu spécialement pour Johnny Hallyday?
Tout pour tout le monde.
Quel âge avez-vous?
15 ans et demi.
Vous êtes venu spécialement pour Johnny Hallyday?
Oh oui, j'aime beaucoup, c'est mon idole.
Qu'est-ce que ça représente pour vous, Johnny Hallyday?
Oh, tout.
Tout, c'est-à-dire?
Oh bah moi, je suis pour ça.
Quel âge avez-vous? 65 ans.
7 ans.
Et vous êtes venu pour qui particulièrement?
Pour Johnny Hallyday.
Vous êtes venu ici exprès pour Johnny Hallyday?
Ah oui, bien sûr, il est terrible.
Quand le concert débute, il ne reste plus un centimètre carré de libre. Il y a même des arbres qui menacent de tomber sous le poids des fans juchés sur les branches. Et le jeune Johnny Hallyday électrise la foule.
Est-ce que vous voulez mettre de l'ambiance? Alors allons-y!
Soirée, beaucoup d'émotions, mais aussi des vitrines cassées, des stores arrachés, des carrosseries enfoncées. Le lendemain, la presse titre « Ça n'est plus salut les copains, c'est salut les voyous ». Europe numéro 1 tient néanmoins à saluer le travail de la police.
Il y avait hier soir, place de la Nation, une foule énorme. 200 000, peut-être 250 000 personnes. Et si tout s'est bien passé, c'est vraiment grâce à la police parisienne à qui il faut rendre hommage en la circonstance. Nous en parlions encore tout à l'heure avec Lucien Maurice, à qui la chose a été aussi très sensible. Les agents ont réussi à contenir, avec courtoisie et compréhension, Une foule qui n'avait rien d'agressif, bien sûr, mais qui était très difficile à contenir par le fait même qu'elle se pressait et grossissait sans cesse. Ils ont eu beaucoup de travail, un travail aux multiples aspects, le plus souvent fort ingrat, et ils l'ont accompli avec autant de conscience que de gentillesse, il fallait le dire, et les en remercier.
Et c'est dans un article du journal Le Monde que le sociologue Edgar Morin trouve un nom à ce phénomène et à la génération qui va avec. Les yé-yé, comme le son yé, souvent répété à la fin des chansons de rock.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul. Seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime à ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour j'aurai quelqu'un qui m'aime.
C'était Françoise Hardy, tous les garçons et les filles. Françoise Hardy qui était yéyé en 1963 et qui, après, passera à toute autre chose.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1963, comme chaque année depuis 6 ans, les Français attendent avec impatience de profiter de leur congé payé.
Votre profession, monsieur ?
Je suis vendeur dans un grand magasin.
Vous avez combien de temps de vacances ?
1 mois.
Et vous les prenez une seule fois ?
C'est-à-dire à l'heure actuelle, parce que je suis obligé de les prendre. Normalement, si je pouvais, j'égaliserais. C'est-à-dire je ferais 15 jours l'été et je réserverais au moins 15 jours pour l'hiver.
Quel métier faites-vous, monsieur ?
Ouais, agisseur. J'ai 24 jours, quoi, en gros.
Est-ce que votre maison a l'intention de vous donner un peu plus ?
L'affaire est en cours, mais on ne saurait quoi dire.
Combien de vacances avez-vous, madame ?
1 mois.
Quelle profession exercez-vous ?
Je suis gardienne d'immeuble.
Et est-ce que vous prenez votre mois de vacances d'un seul coup ?
Mais oui, monsieur. Les moyens ne me permettent pas de partir 2 fois en vacances.
Et parmi les destinations de l'été 63, il y en a une qui fait causer. Le Club Soleil de Berck, en Moselle. C'est un camp de nudistes qui n'a pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le soutien de monsieur le maire.
Monsieur le maire de Berck en Moselle, Robert Schmitt, 35 ans.
On va très mal dans notre pays, qui est un pays à tradition. On va très mal une installation de ce genre. Les gens ont des principes auxquels ils tiennent. Il faut élever la jeunesse le plus proprement possible.
La proximité d'un camp nudiste, ce n'est pas sain.
Non. Il y aura toujours, je crois, des petits scandales, des enfants qui verront des choses qu'ils ne devraient pas voir. Je crois que si vous voyez une personne assez jeune, nue, c'est peut-être moins choquant que de voir une personne plus âgée.
Que va-t-il se passer ? Dans quelques mois, les beaux jours vont arriver et les nudistes, de nouveau, vont affluer au camp du soleil.
Je crains qu'il y aura des histoires, des bagarres, je ne sais pas. Personnellement, je n'encouragerai pas la violence. Je ne pourrai en aucun cas, avec les moyens dont je dispose, garantir la tranquillité et la sûreté des gens qui viendront s'implanter au camp de nudistes.
Le maire craint la violence et les habitants de son village de Berck ne sont pas loin de lui donner raison, bien décidés à défendre coûte que coûte la notion de pudeur.
Quand on est habillé, c'est quand même mieux que de se promener nu et les beautés cachées, c'est plus beau. Je suis quand même assez pudique.
Encore. Malgré que je suis très moderne. Si les autres me donnaient l'exemple, alors non, d'accord, je suivrai le mouvement. Parce que j'étais élevée ici dans l'Est, et j'estime qu'au centre de la France et dans le Midi, les habitudes sont plus libertines. Libertines, plutôt.
Libertines, oui. Monsieur, êtes-vous pour ou contre le camp nudiste ?
Moi, je suis contre.
Pourquoi ?
Parce que le camp nudiste trouble l'ordre du village.
Pour ou contre ? Je trouve que c'est pas très bien que les enfants jettent un coup d'œil là-dessus, vu que c'est même pas clôturé.
Ben oui. Je suis père de 3 enfants. Et pour moi, c'est très pénible de savoir qu'à 500 mètres de chez moi, il y a un camp nudiste. Je ne vois pas, comme dans la République, que nous l'appelions la 3e, la 4e ou la 5e, qu'il soit toléré chose pareille dans une République où nous sommes nous autres. Non, vraiment, dans notre village, nous ne tolérons pas ça et nous ne le tolérerons jamais.
Sauf que du côté des nudistes, eh bien la définition de la pudeur n'est pas tout à fait la même. Et le président du club se lance dans un cours sur la pudeur à travers le monde.
Ça vous gêne pas de vous promener tout nu comme ça en groupe ?
Non, pourquoi ? On parle de pudeur. Comme j'ai voyagé pas mal dans le monde, la pudeur, c'est suivant la région, suivant la religion, suivant la mentalité des gens. Dans les pays européens, c'est le sexe. En Chine, c'est les pieds. Dans les pays arabes, musulmans, c'est le visage. Alors dans les centres naturistes, n'est-ce pas, il y a une plus grande camaraderie entre les deux sexes que dans les autres clubs. Le maire de Berck, il ne veut pas avoir de club naturiste dans son village.
Et pourquoi, croyez-vous ?
Ça, je n'en sais rien du tout.
On prête aux paysans de Berck l'intention de recevoir les nudistes à coups de fourche. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On se défendra comme on peut.
Jacques Ourevitch, depuis Berche-sur-Moselle, Europe numéro 1.
Cela dit, il faut dire que l'été 1963 ne se prête pas beaucoup au nudisme, en raison d'une météo épouvantable au mois d'août. Les Français sont d'ailleurs nombreux à écourter leurs vacances, aux grandes dames des professionnels du tourisme, comme ici à Annecy.
Monsieur, vous êtes directeur du camp, votre bilan 63.
Eh bien, un mois de juillet excellent, et un mois d'août catastrophique, dû à la pluie. Les terrains ont été inondés, il a fallu en sacrifier les 2/3. Les vacanciers ont interrompu leurs vacances au bout des 15 jours. Ceux qui avaient 4 semaines ont décidé pour la plupart de prendre une semaine de vacances chez eux.
Monsieur, je vous ai trouvé en train de préparer vos affaires. Pourtant, oui. Les vacances ne sont pas terminées. Pourquoi partez-vous ?
À cause du temps. Il faudra réviser le calendrier, je crois. Les giboulées de mars tombent au 15 août à l'heure actuelle.
Madame, vous allez vous aussi partir ?
Oui, on part aujourd'hui.
Et vous comptiez partir quand normalement ?
Dans quelques jours.
Dans quelques jours. Et Pourquoi vous écourtez vos vacances ?
À cause du beau temps.
Et vos vacances 63 sont gâchées, non ?
Bah, plus ou moins. Hein. On espère qu'on n'aura pas de rhumatisme cet hiver. Hein.
On est ici depuis 10 jours. Et on est écœuré parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. On attend toujours le soleil. Ma foi, je pense quand même m'en aller à la fin de la semaine pour cette raison.
Right. C'était les Américains de The Cascade avec Rhythm on the Rain.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Début 1963, Alain Delon termine le tournage du polar d'Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol. Film dans lequel il donne la réplique à Jean Gabin.
Allez, la prospérité de notre entreprise.
Ton turbin, en principe, ça doit se dérouler où?
Sur la côte.
Et ça va chercher gros?
Beaucoup de pognon, aux alentours du milliard.
Dans ce film, Mélodie en sous-sol, Alain Delon incarne un blouson noir de Pigalle qui descend à Cannes avec un ancien compagnon de cellule pour cambrioler un casino. Pour les besoins du film, les maquilleurs lui ont dessiné une balafre sur la joue. Avec cette cicatrice, Delon a l'air d'un voyou plus vrai que nature. À tel point qu'un soir, sur la croisette, il est interpellé par la police.
Il a effectivement été appréhendé hier soir. Comment il avait gardé sa tenue de garçon.
Alors il en avait bien l'air.
Oui, il faut croire. Il avait une balafre sur la joue, factice bien entendu, et elle y était toujours, son maquillage était resté tel que. Alors ça n'ajoutait pas évidemment à la beauté de son faciès.
Oui, évidemment, alors vos agents...
Dans le doute, n'est-ce pas, ils se sont pas abstenus au contraire, là, ils ont amené. Ils sont aussitôt arrivés et il a été évidemment reconnu, ceci d'autant plus facilement que les gardiens de la paix qui avaient assisté au tournage l'après-midi, on l'ont parfaitement connu tel qu'il était. Évidemment, il s'est présenté. Hein.
Oui, tout ça, ça s'est terminé de bonne humeur.
Ah oui, absolument. L'arrivée est repartie dans un éclat de rire général.
Et mais ce qui veut dire aussi que vos gardiens surveillent bien les...
Ah oui, vous voyez, hein. Oui, ça sûrement. Parce que vous savez que nous sommes une ville visée par les malfaiteurs, hein. Avec toutes les beautés qui sont aux devantures, alors évidemment, on voit ça de très près. Hein.
L'autre jeune premier de l'époque, Jean-Paul Belmondo, est aussi sous les feux des caméras en cette année 1963. Il tourne Peau de banane sous la direction de Marcel Ophuls. Et durant ce tournage, Belmondo a lui aussi des démêlés avec la police. Le 1er mars 1963, il est interpellé à proximité de l'aéroport d'Orly, comme le raconte un membre de l'équipe du film.
On avait été pour faire des photos qui devaient figurer dans le film. On était parti à 4 et nous avons été près de l'héliport d'Orly dans un chantier pour faire des photos. Et lorsque nous avons terminé ces photos...
Vous aviez une tenue un peu spéciale?
Oui, nous étions habillés en mexicain avec des fausses moustaches et des chapeaux pointus. Lorsqu'on est reparti, bien sûr...
Vous aviez des gros revolvers, non?
Non, quand même pas, on n'a pas été jusque-là. Quand on est reparti, bien sûr, on avait quitté nos chapeaux. On est passé par l'héliport et juste à ce moment-là, il y avait le général de Gaulle qui prenait l'hélicoptère pour partir, je ne sais pas où, on ne nous a pas renseigné. Et on s'est fait naturellement arrêter par les agents et on leur a semblé louche et on a fait 2-3 commissariats où on nous a interrogés, on nous a demandé si nos moustaches étaient vraies, on nous a fait enlever et tout.
Et autour de l'héliport, il y avait vraiment beaucoup d'agents de police?
Oui, il y en avait bien 3000, il y en avait même sur les toits. Surtout, on avait une voiture qui avait un numéro allemand. Alors sans doute qu'ils ont fait un rapprochement, hein, le flair. D'ailleurs, il y a un des agents qui nous a raconté ce qu'était le flair. Ils avaient vu une voiture allemande où nous étions dedans. Et justement, le monsieur avait remarqué qu'il n'y avait pas de blond dedans. Il s'est dit, pour une voiture allemande, c'est très curieux qu'il n'y ait pas de blond. Et c'est pour ça qu'il nous avait arrêtés.
Mais donc, il s'agissait d'une méprise. En revanche, un mois et demi plus tard, Belmondo se bat pour de vrai avec des policiers.
Je revenais de tourner Peau de banane. Et j'avais regagné le studio de Boulogne pour synchroniser... un film que j'ai fini, et en cours de route, on a vu un accident. C'est-à-dire que j'ai vu un motocycliste allongé sur la chaussée qui perdait son sang, enfin c'était assez horrible, je me suis arrêté, et il était sous la pluie, le car a mis un temps fou à arriver, et enfin ce car est arrivé, et ils ont pris ce blessé, ils l'ont mis dans le car, et au lieu de l'emmener tout de suite, ils ont commencé à prendre les mesures, voir l'accident, et chercher les témoins. Alors je leur ai dit de se dépêcher et d'emmener ce blessé. J'ai eu une altercation avec le chauffeur du car de police qui me dit « t'as qu'à le conduire, toi ». À quoi j'ai répondu « si tu veux, je vais le conduire ». Et de là, moi, je me suis réveillé au commissariat près de 25-30 minutes plus tard, parce que j'avais pris un coup de poing par derrière par un de ces messieurs qui, très courageux, est venu me frapper par derrière et ma tête a été heurtée le trottoir. Et moi, je me suis réveillé dans le commissariat où on m'a fait comprendre que finalement, c'était pas bien grave ce qui m'était arrivé. Enfin, j'ai quand même dormi 25 minutes ferme et 2 heures dans le cirage. Je trouve que c'est beaucoup. J'ai 20 témoins qui étaient là, des gens qui ont été outrés par l'attitude des agents. Si les agents se mettent à avoir des manières de gangsters, c'est charmant.
Les agents, les passants, ne vous avez pas reconnu ?
Si, si, les passants m'avaient reconnu. Les agents, celui qui m'a frappé, étant donné qu'il m'a frappé par derrière, il n'a pas dû voir qui j'étais. Mais vu les attitudes de ces messieurs, j'ai l'impression que même en s'appelant Belmondo ou n'importe qui, j'aurais pris le coup quand même. Alors on m'a dit là-bas que j'avais fait insulte à agent. Mais je me rappelle très bien ce que j'ai dit à ce chauffeur. Il m'a tutoyé, je l'ai tutoyé. Il n'y avait aucune raison que moi je le vouvoie étant donné qu'il me tutoyait. Et s'il m'a dit un mot ordurier, j'en ai dit un aussi. Et donc lui est resté de toute façon à son volant. Et c'est un copain qui est venu à lui, qui est venu me frapper par derrière. Et je trouve que vraiment, alors, dans un pays comme la France, on se fait matraquer comme ça pour un oui ou pour un non, c'est assez scandaleux.
Est-ce que vous avez l'intention de porter plainte ?
Ah ben oui, ça, je comprends.
Jean-Paul Belmondo, dans l'incapacité de travailler pendant 3 jours, porte plainte pour coups et blessures. Plainte qui sera classée sans suite. Mais même s'il est contrarié, il décide de passer à autre chose, car il a de la promo à faire.
Une question qu'on vous a certainement beaucoup posée, et quel est le rôle que vous préférez, le rôle de la jeune brute ou bien le rôle du bon jeune premier ?
Bah, vous savez, c'est toujours délicat de répondre quel est le rôle qu'on préfère. En général, c'est le dernier film qu'on a fait, c'est le personnage qu'on préfère. Et moi, j'ai tendance à préférer d'ailleurs les comédies, les personnages où je suis plutôt gay, parce que j'ai joué au théâtre pendant 9 ans et je jouais des personnages gays. Au cinéma, je me suis souvent trouvé très triste, alors c'est pas tellement dans ma nature.
Lorsqu'on vous propose un personnage dans un film, qu'est-ce que vous regardez d'abord ?
Alors bah, vous savez, je regarde d'abord si c'est une bonne histoire, parce que c'est Gabin qui avait dit ça un jour, et je trouve que c'est très important. Il disait quand il fait un film, il y avait 3 choses importantes. La première, c'était une bonne histoire, la seconde, une bonne histoire, et la troisième, une bonne histoire.
Dites
je
donc,
crois
vous,
que c'est vrai.
Vous me donnez l'impression d'être très très optimiste, vous êtes donc très très heureux.
Très heureux, oui.
Est-ce que vous avez une recette au bonheur ?
Bah, non, je sais pas, chacun a la sienne. Moi, la mienne, c'est que j'ai 3 enfants, j'aime beaucoup, ils sont charmants. Et en plus, ma carrière marche bien, alors j'aurais tort de pas être heureux.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. Referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles. Comme 2 gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime. Oui ce soir tu ressembles à l'amour. Referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui la vie toujours rassemble. Malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage. Un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne. Enfin pour le pire et le meilleur. La 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 la. La 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 la
Marie Laforêt avec les Vendanges de l'amour en 1963.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
Le 17 janvier 1963, le tout Paris s'est donné rendez-vous à l'Olympia pour applaudir Charles Aznavour.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou.
Après ce triomphe parisien, Aznavour s'envole pour les États-Unis où il est attendu pour un récital unique au Carnegie Hall de New York. Et malgré le manque de publicité dû à une grève des journaux, les New Yorkais se sont passés le mot et le 30 mars 1963, la salle mythique de Carnegie Hall est comble pour applaudir le Frenchie.
L'amour, you know what it means. So I guess you will all understand what I'm trying to say with Après l'amour. Nous nous sommes aimés, nos joies se sont offertes, et nos cœurs ont battu poussés par cet instinct qui unit les amants en se fichant du reste. Tu glisses tes doigts par ma chemise entrouverte et pose sur ma peau la paume de ta main, et les yeux mi-clos nous restons sans dire un mot, sans faire un geste. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, nous restons étendus.
Ce soir-là, Charles Aznavour régale son public avec des chansons en français, mais aussi en italien, en espagnol et bien sûr en anglais.
Puis enfin, au bout de 20 minutes, Charles Aznavour a pris le risque de chanter la traduction de ses chansons. Et puis, prudemment, il a alterné une en anglais, deux en français.
The boss is dead, so what? Who cares? He was confined to bed and grumpy. I used to dread to climb the stairs. He made me nervous, even jumpy. Here, in his mansion, he would live, making believe that it was haunted. Here was a man who'd never give. Here was a man who always wanted.
Et le concert d'Aznavour, prévu pour durer une heure, dure finalement 2 heures.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont traversé les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent si.
Dans la salle, des New Yorkais, bien sûr, mais aussi des Français, des fans, qui ont fait le déplacement depuis la France pour applaudir l'artiste.
Charles Aznavour a réussi son opération New York. Il y a moins de 48 heures, à Carnegie Hall, Charles Aznavour a donné un nouveau sens au mot « formidable ». Ce mot qui sert de titre à une de ses meilleures chansons. « Formidable », c'est d'ailleurs un très bon titre, surtout lorsqu'il s'inscrit en lettres énormes sur la pochette d'un disque. Un disque que 150 Parisiens portaient tous très fièrement en descendant tout à l'heure à Orly de l'avion spécial qui les ramenait de New York. C'était, entraîné par Henri Colgrand et Jean-Louis Marquet, l'équipe Paris de l'opération Aznavour à New York. Cette équipe Paris faisait d'ailleurs partie d'une très importante équipe française venue encourager le champion numéro 1 de la chanson.
Ce récital américain est un triomphe et il marque le début d'une tournée outre-Atlantique. Et en novembre 63, Aznavour est interviewé au journal de 20h.
Est-ce que vous expliquez la carrière fulgurante de certains chanteurs? Est-ce qu'on peut faire son métier en un an?
Je pense que les époques n'étant pas les mêmes, à l'heure actuelle, on peut faire une carrière en un an. Et j'aurais peut-être aimé, moi aussi, faire une carrière en un an.
Alors pourquoi vous ne l'avez pas faite? Il y a bien une raison.
Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas.
Pourquoi?
Alors, je ne sais pas. Les choses se faisaient beaucoup plus lentement et peut-être que les jeunes avaient beaucoup moins d'assurance à l'époque. Maintenant, ils ont beaucoup plus d'assurance, ils se tiennent déjà mieux en scène et ils ont déjà une sorte de personnalité qui plaît au public, qui plaît surtout aux jeunes et puis petit à petit, les autres y viennent.
Oui, mais ça veut dire que les autres, les anciens n'avaient pas de personnalité alors?
Ils étaient moins habitués. Maintenant, il y a la télévision, le disque, la radio qui diffusent énormément les chansons. À l'époque, on était obligé tout de même de faire le ville-à-ville.
Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau, me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie, que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi.
Charles Aznavour avec sa chanson Et pourtant, extraite de son 11e album La Mama. La suite de notre exploration de l'année 1963 dans le 3e épisode.
Retrouvez On de la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.